Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, l'histoire jugera peut-être que ce fut la grande erreur de l'humanité qu'en début décembre 2015, l'ensemble des pays du monde se sont réunis à Paris pour élaborer une stratégie commune de lutte contre les changements climatiques. Comment, me direz-vous ? Au contraire, ce serait formidable, nous espérons tant, un accord qui engagerait enfin tous les pays à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, un accord à 195 pays qui garantirait une vie durable sur la seule planète habitable que nous avons dans le coin. Oui, mais se focaliser sur le seul réchauffement climatique risque de nous détourner d'autres efforts indispensables pour protéger la santé humaine, réduire les inégalités et préserver notre environnement. C'est en tout cas la thèse de notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jean-Claude Amezen.
Bonjour.
Vous êtes médecin, chercheur en biologie, président du Comité consultatif national d'éthique en France. Vous avez publié de nombreux livres, alors on peut citer le dernier, le petit dernier, ce sont Les champs mêlés de la Terre et de l'Humanité, publié aux éditions de l'Aube dans la collection Le Monde des Idées. Alors ce livre sonne un peu comme un avertissement à 3 semaines de la conférence de Paris sur le climat, puisque vous écrivez que le changement climatique n'est qu'un des nombreux symptômes des dégradations de l'environnement que causent nos modes de vie.
Tout à fait, ça reprend un entretien qui avait lieu pendant le Festival d'Avignon avec Nicolas Truong du Monde, qui avait été publié à la fin août, et puis une autre tribune que j'ai faite dans Le Monde au début juin à l'occasion du colloque climat du Conseil économique, social et environnemental. Et l'idée, c'est que ça n'est pas une erreur, mais il est assez étrange que au même moment, il y ait 2 initiatives de l'ONU. L'une qui est la conférence sur les changements climatiques et qui est complètement focalisée sur les émissions de gaz à effet de serre et le climat. Et en même temps, il y a les objectifs du développement durable qui, eux, ont comme objectif, je cite, de libérer l'humanité de la tyrannie, de la pauvreté et de la dépendance et de faire en sorte que la planète soit accueillante aux générations présentes et futures. Et donc ça prend en compte non seulement le climat, les changements climatiques, mais l'ensemble des problèmes de l'environnement actuel, la crise écologique et ses conséquences, non seulement futures, mais présentes sur une grande partie de l'humanité. Et donc, s'inquiéter du changement climatique, c'est important. Ça mérite une mobilisation. Le risque, c'est que si cette mobilisation est trop étroite, eh bien, elle méconnaisse toute une série de problèmes et de tragédies graves qui ont lieu aujourd'hui, et en particulier une crise environnementale, la pollution, la dégradation des sols, des eaux, la déforestation, l'acidification de l'océan, qui sont aussi importantes et dont les dégâts sont déjà visibles aujourd'hui. Donc, les changements climatiques, c'est une menace, c'est en train de commencer, mais il y a toute une série de dégradations graves qui sont en train de se produire.
Il ne faut pas oublier la nature et ses interactions que vous nous faites découvrir d'ailleurs chaque samedi à 11h dans votre émission Sur les épaules de Darwin, qui est diffusée sur France Inter, comme dans cet extrait où vous nous expliquez le rôle de la lumière.
La lumière du soleil a nourri la vie. Et les premiers êtres vivants à avoir vécu de lumière ont été des bactéries qui vivaient à la surface des premiers océans. Il y a 2,5 milliards à 3 milliards d'années, les cyanobactéries pratiquaient probablement déjà la photosynthèse, et la photosynthèse permet de vivre de lumière. Elle permet, à partir de dioxyde de carbone, le CO2, d'eau, H2O et de lumière, de produire les composés carbonés qui constituent la matière vivante. Et comme aujourd'hui la photosynthèse des innombrables plantes, algues, cyanobactéries et autres organismes qui constituent le phytoplancton, la photosynthèse des cyanobactéries, il y a 2,5 milliards à 3 milliards d'années, libérait de l'oxygène. Et il y a plus de 2 milliards d'années, l'oxygène a commencé à se répandre dans l'atmosphère. Et ainsi, la composition de l'atmosphère terrestre, la composition de notre atmosphère, est probablement née des interactions entre une partie du monde vivant et la lumière. L'oxygène que nous respirons continue depuis 2 milliards d'années à être produit par l'activité de photosynthèse des plantes terrestres et du phytoplancton, les cyanobactéries et les algues à la surface des océans. Et à chaque fois que nous inspirons et que nos poumons s'emplissent d'oxygène, nous respirons l'effet de la lumière du soleil sur les plantes, les cyanobactéries et les algues. la lumière qui permet la vie, la lumière qui nous permet de respirer, la lumière qui nous permet de voir.
Jean-Claude Amezen, à travers cet extrait de votre émission de radio, on comprend l'importance pour vous d'expliquer cette merveille qu'est la vie qui nous entoure. Et c'est vrai que la lumière fait tellement partie de notre quotidien, finalement, que nous ne la voyons plus.
Et que nous oublions qu'elle a d'autres effets que de nous permettre de voir. Et qu'elle a énormément d'effets. Je crois que c'est important par rapport à ce qu'on disait, ces interactions entre le vivant et la lumière, entre le monde végétal et la lumière, nous permet de respirer. Et la question de la qualité de l'air que nous respirons est quelque chose de très important. Or, cette qualité, l'Organisation Mondiale de la Santé considère aujourd'hui que 90% de l'humanité respire un air qui n'est pas aux normes de l'Organisation Mondiale de la Santé et que 8 millions de personnes chaque année meurent prématurément des conséquences de la pollution atmosphérique.
Oui, donc on voit bien là qu'on est en pleine dégradation, mais en même temps, je reviens à cette idée de perception. C'est vrai que on ne peut pas finalement considérer ce que nous ne percevons pas. Or, nous ne percevons pas tout. Par exemple, écoutez ça. Ça vous dit quelque chose? En fait, c'est un enregistrement de Bernie Krause que vous citez dans votre livre. Depuis 35 ans, il a enregistré des paysages de son dans plus de 15 000 sites naturels. Et près de la moitié de ces sites, dit-il, sont devenus muets. Donc c'est vrai que là, par exemple, ce sont des mammifères marins. C'est quelque chose que nous, en tant qu'humains, nous sommes incapables de percevoir. Il y a des sons, des lumières qu'on ne voit pas.
Tout à fait. Alors il y a les sons qui sont de fréquences trop basses, qui sont des modes de communication de cétacés, de baleines, d'autres animaux. Et puis, au contraire, les sons de fréquence. Nous ne percevons des sons que de fréquence jusqu'à 20 000 hertz. Et toute une série d'animaux émettent des ultrasons.
Les chauves-souris, par exemple,
ouais. Et les dauphins, et les belugas, et les orques. Et donc, il y a un monde sonore qui est un monde de communication, d'interaction, qui nous échappe totalement. Mais c'est vrai pour le monde visuel aussi. Les oiseaux, les poissons, les abeilles voient par exemple les ultraviolets. Nous ne les voyons pas. Et donc, il y a toute une série de couleurs, des fleurs par exemple, qui sont très importantes, qui attirent les abeilles, les insectes pollinisateurs, et que nous ne voyons pas. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi la science et l'imagination et la poésie nous permettent d'essayer d'appréhender ce que nos sens ne nous permettent pas de découvrir, et de réaliser, ce qui est un exercice à la fois d'émerveillement et d'humilité, qu'il y a plusieurs réalités, que la réalité du monde et de la nature que nous percevons n'est qu'une des formes de réalité, que d'autres êtres vivants autour de nous en perçoivent des dimensions qui nous échappent.
Mais ça sous-entend ce que vous disiez, une certaine humilité qui serait à la base du respect de cette nature. Or, c'est massivement cette humilité que nous avons perdue.
Tout à fait. Je pense de l'humilité conjuguée avec l'approche scientifique qui nous permet de continuer à nous émerveiller en découvrant de nouvelles connaissances. Et donc c'est pas une idée de maîtrise, c'est pas l'idée que nous connaîtrions déjà tout, que nous pourrions faire n'importe quoi. C'est cette humilité de penser qu'il y a énormément de richesses qui nous échappent et que nous pouvons essayer de découvrir. Même quand nous les découvrons, elles ne nous permettent que de l'imaginer. Savoir comment un oiseau voit des couleurs ultraviolettes ou un mélange de couleurs de l'arc-en-ciel et de couleurs ultraviolettes, nous pouvons détecter qu'il le perçoit, mais nous ne pouvons qu'imaginer comment ça se traduit dans ses représentations mentales.
Mais ça sous-entend de conserver une certaine capacité d'émerveillement que l'on a du mal à conserver dans nos villes qui sont de plus en plus encombrées, où nous sommes de plus en plus nombreux, plus de la moitié de l'humanité habite en ville désormais.
Oui, et malheureusement, la plus grande partie de l'humanité qui habite en ville habite dans des bidonvilles. C'est-à-dire que c'est même pas dans les villes telles qu'elles ont été conçues par les architectes et les urbanistes. Vous savez, la recherche, c'est penser que ce qu'on ne connaît pas est encore plus merveilleux que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et que donc, essayer de découvrir, essayer de poser des questions, essayer d'explorer l'inconnu, c'est quelque chose qui est source de merveille. Mais je crois que c'est ce que tout enfant a. Les enfants sont émerveillés. Les enfants ne cessent de poser des questions. Les enfants ne cessent de trouver que le monde qui les entoure est splendide, extraordinaire. Et je crois que quand nous perdons cette capacité de questionnement, d'émerveillement, d'étonnement, c'est là que nous nous appauvrissons.
Alors après, il faut savoir regarder le monde qui nous entoure. Par exemple, on a basiquement plus de considération et d'empathie pour les animaux que pour les plantes. Mais là aussi, c'est parce que nous nous arrêtons souvent à notre première impression, parce que l'animal semble quelque part plus vivant que la plante, ce qui est totalement faux, comme nous l'avait expliqué le botaniste et amoureux des arbres Francis Allais lorsqu'il était passé dans ses pas du vent.
Le problème de la plante, voyez, c'est que c'est une forme de vie totalement différente de la nôtre. Une altérité absolue. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'œil. Alors on ne sait pas par lequel boulet prendre. Et du coup, on s'en désintéresse parce que c'est trop différent de nous. Ça ne bouge pas, ça ne fait pas de bruit. Et par conséquent, beaucoup de nos contemporains pensent même que ce n'est pas vivant. Voilà pourquoi on a un petit peu de mal à se passionner pour les plantes. Et cependant, je peux vous garantir que quand on s'y intéresse vraiment... Excusez-moi, ça va peut-être paraître un peu méchant, mais ça me paraît beaucoup plus original que les animaux. Les solutions qu'ont adoptées les plantes ne sont pas seulement différentes des solutions adoptées par les animaux, elles sont inverses. Nous sommes mobiles, elles sont fixes. C'est une forme de vie totalement originale et je n'arrête pas de m'étonner et d'admirer les prouesses auxquelles elles arrivent, ces plantes. Un acacia attaqué par une gazelle, en 20 secondes, il devient toxique. Ça, c'est déjà quelque chose d'étonnant, cette transformation biochimique fulgurante. Mais le plus étonnant, c'est que l'acacia attaqué, devenu toxique, prévient les autres acacias qui deviennent toxiques à leur tour. Il les prévient à l'aide d'un message gazeux qui descend le vent. Et donc, voilà, c'est une constatation qui a lancé une problématique maintenant très riche et qui continue à être très nouvelle, la communication entre les arbres. Alors, ils communiquent par voie aérienne, comme dans le cas de l'acacia. Ils peuvent aussi communiquer par voie souterraine, par des soudures de racines, ou par ces extraordinaires champignons qui les relient les uns aux autres et qui entrent en symbiose avec leurs racines. Les arbres, vous voyez, ont des quantités de manières de communiquer les uns avec les autres.
Et oui, il n'y a pas que les hommes ou les animaux qui parlent, les arbres aussi, Jean-Claude Amezen. C'est vrai que cette communication entre les arbres, là aussi, nous ne l'apercevons pas. On entend souvent le son d'un arbre qui tombe, disons-nous, mais pas celui d'un arbre qui pousse.
Tout à fait. Vous parliez de Bernie Krause. Bernie Krause, parmi les nombreux enregistrements, les innombrables enregistrements qu'il a fait, a enregistré la nuit le son que fait le maïs quand il pousse. Et donc, c'est là qu'on voit que les plantes bougent. Les plantes replient leurs feuilles, ouvrent les fleurs, referment les fleurs. Darwin avait consacré un livre au mouvement des plantes, et en particulier les plantes qui suivent la lumière, qui suivent le soleil au cours de la journée. J'adore Francis Allais parce que sa passion pour les plantes a quelque chose d'extraordinairement, encore une fois, émerveillé. Comprendre parce qu'on s'émerveille et être émerveillé parce qu'on a appris. Mais je crois, ce qu'on appelle la communication, il y a cette grande ambiguïté, la communication consciente, c'est le langage et c'est partagé par à des degrés divers par toute une série d'animaux. Mais la communication, l'interaction entre les êtres, c'est quelque chose qui est au cœur du vivant. Et donc les bactéries communiquent, les cellules de levure communiquent. La vie pendant les 3 premiers milliards d'années de son évolution était composée essentiellement ou uniquement d'organismes unicellulaires, de bactéries, de levures, d'amibes. Et ces êtres vivants communiquent entre eux et communiquent avec des êtres vivants appartenant à d'autres espèces. Donc le monde vivant est interaction, est entre guillemets langage. Et les formes de communication des animaux, des primates non humains et de nous-mêmes ne sont qu'une des formes particulièrement raffinées d'un processus qui est au cœur du vivant. Et comme vous le dites, que le plus souvent nous ne voyons pas. Parce que les éléments de ce langage, les gaz, les substances, les molécules chimiques qui s'échangent, nous sont invisibles tant qu'on ne commence pas à les explorer.
Pourtant, nous en sommes faits.
Nous en sommes faits. Et à l'intérieur de notre corps, ces échanges et ces interactions sont permanentes. C'est ce qui nous permet de vivre. Lorsque nous nous voyons, nous avons l'impression d'être composés d'un seul tenant. D'où cette idée d'individu. Indivisible. Et depuis 150 ans, on sait que tous les êtres vivants sont des sociétés de cellules. Notre corps adulte est formé de dizaines de milliers de milliards de cellules. Et ces cellules ne cessent de communiquer entre elles. Et la vie et la mort de chacune des cellules qui nous composent dépend de la la nature de ces interactions. Mais nous hébergeons dans nos intestins, dans nos tubes digestifs, des bactéries qui nous aident à produire l'énergie, à consommer l'énergie, à monter des défenses contre les infections. Et ces bactéries sont 10 fois plus nombreuses que les cellules de notre corps. Nous hébergeons des centaines de milliers de milliards de bactéries. Et cette symbiose qui se reforme à chaque génération, peu après la naissance des enfants, eh bien, est faite aussi d'interactions et de dialogues entre notre corps et ses bactéries, et entre ces bactéries et notre corps.
Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ça ne fait pas partie de notre éducation? Pourquoi est-ce qu'on ne nous l'explique pas, ça? Ça nous donnerait peut-être une perception de nous-mêmes différente et une perception de notre place dans ce monde différente?
Je crois, c'est-à-dire qu'on ne réalise pas que la vie, et donc nous, tous les êtres vivants, est ouverture sur l'extérieur et échange avec l'extérieur. Il n'y a pas de vie sans échange avec l'extérieur. Et donc, qui dit échange, dit communication, interaction, modification. Et nous avons tendance à voir le monde un peu comme constitué d'entités, hein, un animal, des animaux, des plantes, des arbres, en oubliant ces éléments que tout être vivant, encore une fois, est ouvert sur son environnement, et en oubliant aussi quelque chose, quand Francis Allais disait elles sont radicalement différentes de nous, ce qui est très beau et très émouvant, ce que la théorie darwinienne de l'évolution du vivant a permis de découvrir il y a 150 ans, c'est que nous sommes tous cousins. C'est-à-dire que la différence apparemment radicale entre les animaux et les plantes, c'est simplement des degrés de séparation sur une généalogie commune, sur une parenté commune. Et donc, qu'il s'agisse de bactéries, de levures, de plantes, d'animaux ou de nous-mêmes, nous sommes tous des cousins dans une généalogie commune. Et puis depuis le début du XXe siècle, on sait que nous sommes aussi, parce que l'univers a aussi évolué, pas simplement l'univers vivant, nous sommes aussi les cousins des étoiles. Et donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez émouvant à s'apercevoir que nous faisons partie d'un monde, non pas d'un monde qui nous entoure, mais d'un monde qui est de notre famille. Et ça permet de penser que ce qui existe chez les plantes, ce qui existe chez certains animaux, eh bien, est présent sous une autre forme, chez nous aussi, et de chercher des points communs, et pas seulement ce qui a été une des spécialités de l'humanité, de chercher de manière obsessionnelle les différences qui nous sépareraient radicalement du reste du monde vivant.
Alors le naturaliste Charles Darwin, que vous affectionnez tant, hein, s'inquiétait déjà il y a 150 ans, après avoir proposé sa théorie de l'évolution du monde du vivant, de notre capacité justement à le détruire. Vous le citez dans votre livre, hein, c'est extrêmement contemporain, c'est surprenant. Il dit, c'est seulement aujourd'hui que l'homme a commencé à prouver à quel point la connaissance est du pouvoir. L'humanité a désormais acquis une telle domination sur le monde matériel et un tel pouvoir d'augmenter en nombre qu'il est probable qu'elle envahira toute la surface de la Terre, jusqu'à l'annihilation de chacune des belles et merveilleuses variétés d'êtres animés.
Sauf, disait-il, ce qui est une prédiction en partie réalisée, sauf pour les plantes et les animaux que nous aurons conservés dans nos jardins, dans nos parcs zoologiques et dans nos fermes. Et vous savez qu'aujourd'hui, on estime que 80% des mammifères qui vivent aujourd'hui sur Terre sont dans des élevages ou animaux domestiques ou dans des zoos. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est pas tant que la perception des risques de dégradation écologique. On a l'impression que c'est nouveau. On a l'impression que ça naît dans les années 1960, avec le Club de Rome, avec le mouvement de l'écologie. C'était pensé par le chercheur qui avait découvert.
Oui, ça a été montré par Dominique Bourg dans son anthologie de la pensée écologique.
Voilà. On voit bien. Et donc c'est très très ancien, c'est siècles. Le début de la révolution, c'est le milieu de la révolution industrielle anglaise. Et je pense que la différence entre aujourd'hui et l'époque, et il y a 150 ans, c'est que ça n'a pas été écouté. C'est-à-dire, oui, Darwin s'inquiète, mais après tout, Darwin est un chercheur. Il a découvert les lois d'évolution du vivant qui permettent aux vivants de se diversifier. Mais en ce qui concerne ses inquiétudes, ça doit être quelqu'un qui va trop loin. Et donc, c'est à mesure des dégradations de notre environnement que la conscience écologique a commencé à émerger.
Et donc, au fur et à mesure, c'est vrai que on se rend compte aujourd'hui que c'est quand même le défi du 21e siècle, hein, comme vous l'écrivez. Ce que nous pouvons préserver, ce n'est pas l'état actuel du monde vivant et de notre planète, mais sa capacité à se renouveler, à évoluer, à nous permettre d'y vivre.
Voilà, et à nous permettre d'y vivre collectivement, hein, dans un état de bien-être et dans un état de santé qui soit optimal. Et le drame aujourd'hui, c'est que la dégradation de l'environnement accentue les profondes inégalités qui existent déjà dans le monde.
Voilà, et au-delà de la destruction de ce qui nous entoure, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Vous restez avec nous, Jean-Claude Amezen, on en parle juste après le flash d'info. À tout de suite.